À Rencontre spirituelle aujourd'hui, j'avais annoncé une émission spéciale. Que sait-on de l'au-delà ou qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? J'ai supprimé l'émission, je ne peux pas la faire en une demi-heure, malheureusement. Mais je la remplace par quelque chose qui va probablement, je l'espère, vous intéresser. Je m'inspire d'une pensée de Chiara Lubich dans « Le Christ au cœur des siècles » dont je vous ai déjà parlé, ce livre magnifique, publié il y a 2-3 ans. Avec une préface de Sœur Emmanuel, d'ailleurs la fameuse Sœur Emmanuel, qui est publiée chez Nouvelle Cité. Et ce dont je vais vous parler, comme je l'ai annoncé hier, c'est de l'amour et de la sainteté. Essayez de décortiquer ce problème de la sainteté qui ne vient pas des pénitences, des mérites qu'on accumule, de toutes ces choses qui n'ont plus ou moins de sens finalement devant la splendeur de l'amour des saints. C'est leur amour de Dieu, leur amour des êtres humains, leur amour de tout, dans le Christ, qui en a fait des saints. La sainteté et l'amour, ce sont deux mots, deux réalités. Et il me semble que je ne cesse de vous rappeler bien souvent au cours des 600 et quelques émissions de rencontres spirituelles, de vous rappeler le sens de ça. J'ai beaucoup de difficultés, des fois, à me faire comprendre. Peut-être que je suis trop compliqué. Nous sommes pris sur cette terre, sur cette petite et merveilleuse boule qui circule à une vitesse folle, comme je vous ai déjà expliqué. Et nous sommes des passagers sur un vaisseau spatial. Et nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur moyen, finalement, que l'amour, pour passer au travers de cette immense aventure. Or, je vous ai dit souvent que cette boule est une fabrique de saints, comme le dit si bien Jean Guiton. Oui, oui, c'est une fabrique de saints. On met des enfants au monde pour en faire des saints. C'est pas pour en faire des chanteurs, des danseurs, des champions olympiques. Tout ça, c'est très bien. On peut être un saint en chantant. Je me souviens d'une voisine, quand j'étais tout jeune, qui chantait avec l'orchestre de Harry James aux États-Unis. C'était une Irlandaise qui était notre voisine. Et très tôt le matin, quand elle était en visite chez ses parents, elle allait à la messe. Elle était d'une piété profonde quand on la voyait à l'église. Et pourtant, elle chantait avec l'orchestre de Harry James, oui. C'était assez extraordinaire. Ça m'avait frappé, ça, dans les années 30. Mais deviendrons-nous vraiment saints en aimant? C'est là la question. Nous le savons, le chrétien est déjà saint par son baptême. Hein? C'est pour ça que nous disons dans certains textes très anciens que nous sommes tous des saints par notre baptême. Mais au fond, on sait très bien que le saint, Dieu Trinité, là, le saint avec un saint, Dieu de l'univers, hein? Mais il habite le cœur du chrétien, il habite notre cœur. Paul appelait saint, avec un petit S et un S à la fin aussi, les chrétiens de son temps, comme je viens de vous dire. On trouve ça dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Puis il n'est pas tout seul, il répète d'ailleurs à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Je vous l'ai répété souvent d'ailleurs tout ça. Mais pourtant, c'est à peine si moi-même je le crois. Tant je sais combien, personnellement, je suis loin de la sainteté. On se sent tellement loin de tout ça, hein? La plupart d'entre nous, j'imagine. C'est que comme la plupart des gens, nous entendons, malgré nous, autre chose. Quand on entend le mot « saint » ou le mot « sainteté », nous pensons à la perfection. On se dit jamais, je ne serai parfait, c'est pas possible. Pourtant, Dieu nous dit bien, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui nous a dit ça. Et les saints, on s'imagine, ce sont ceux qui ont parfaitement correspondu au don de leur baptême. Et ça, on a raison. On a raison. Parce que correspondre au don de leur baptême, c'est se jeter finalement sous l'action de l'Esprit-Saint. C'est clair. Mais l'amour là-dedans, est-ce vraiment en aimant que nous atteindrons la perfection? Dans l'histoire de l'Église, est-ce toujours ainsi que les chrétiens se sont sanctifiés? Ou bien par des pénitences excessives, comme on l'a vu parfois dans les vies que j'ai racontées? ou des martyrs héroïques. Une étude plus approfondie, me semble, nous montre qu'en fait, si la sainteté a toujours été présentée par l'Église comme la plus grande expression de l'amour, elle n'a pourtant pas toujours été proposée, cette sainteté, très clairement au cours de l'histoire de l'Église. Ça a paru un peu, de temps en temps, comme je viens de vous le dire, au cours des 3 années de rencontres spirituelles. Au 1er siècle, par exemple, les martyrs étaient considérés comme les saints par excellence. Et quand ils se sont fait rares, parce que les persécutions avaient cessé, eh bien, ce sont les moines que l'on a considérés comme des saints. Et on fête cette année, n'est-ce pas, le 900e anniversaire des Cisterciens. Et on va célébrer ça ensemble. Je vais vous parler de Saint-Étienne Harding et de Saint-Bernard de Clairvaux, deux grands cisterciens. Alors, on a considéré les moines comme étant l'idéal de la sainteté. Puis les laïcs, pour être de bons chrétiens, ils ont cherché à les imiter. Et ça dure encore, et j'en ai été moi-même marqué au cours de ma vie. Je vous ai parlé, le 18 avril de l'an dernier, 97, de Higino Giordani, un laïc. Il avait une foi profonde et une grande connaissance de l'époque patristique et des pères de l'Église, du début de l'Église. Puis il rappelait souvent l'expression de Saint Jean Chrysostome selon laquelle une personne mariée devait vivre comme un moine, avec le célibat en moins. Puis à cette époque, moines et laïcs ne voyaient pas tant la voie de la sainteté dans l'amour, non. Plutôt, il voyait la sainteté dans la fuite du monde, la pratique des conseils évangéliques. Puis leur spiritualité avait donc une teinte surtout négative. Puis au Moyen-Âge, les choses ont continué de la même façon. Saint Thomas d'Aquin, en suivant la doctrine des premiers temps de l'Église, particulièrement qui a été avancée par Saint Augustin, là, plusieurs siècles avant lui, mais Saint Thomas d'Aquin, qui a vécu au XIIIe siècle, avait pourtant réaffirmé clairement que la sainteté chrétienne résidait dans l'amour. On pouvait donc la vivre dans tout état de vie, dans toute situation, puisqu'elle est inscrite dans les commandements, et qu'elle ne se trouvait qu'en second lieu, comme un moyen, dans les conseils évangéliques. C'était secondaire pour lui. Secondaire, mais important. Toutefois, on peut dire que les chrétiens n'ont pas suivi ce que saint Thomas d'Aquin enseignait, ni préféraient un comportement plus ascétique comme les moines. À la fin du Moyen-Âge, au contraire, la nouvelle mentalité qui a été créée par la Renaissance, là, souligne moins la fuite du monde puis les pénitences physiques que, vous vous souvenez, le renoncement intérieur. Le renoncement intérieur, qu'est-ce que c'est ça, le renoncement intérieur? On le comprend bien en lisant saint François de Sales, dont je vous ai parlé le 24 janvier de l'an dernier, lui qui est mort en 1622. Saint François de Sales présente de nouveau, à la suite de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, il présente de nouveau l'amour comme la source, le principe, si vous voulez, de la piété chrétienne. Il remet à l'honneur, pour tout le monde, la possibilité de se sanctifier au milieu du monde. Il insiste beaucoup là-dessus. Ainsi, l'idée de l'amour comme chemin de sainteté réapparaît peu à peu. On le trouve dans l'introduction à la vie dévote, et on vient de publier, j'ai vu ça dernièrement, mais j'ai pas le livre, une introduction à la vie dévote dans une langue d'aujourd'hui pour que tout le monde comprenne comme il faut, parce que c'est écrit dans une langue du début du 17e siècle qui est peut-être un peu trop raffinée. Oh, c'est pas trop raffiné, mais disons que c'est pas notre genre. Bon, pour être clair. C'est encore vrai aujourd'hui ce que dit saint François de Sales, puis ce que dit avant lui saint Thomas d'Aquin. Même si l'on parle souvent de façon excessive de l'aspect, disons, horizontal de la charité, là, s'occuper des pauvres. En tout cas, l'amour est reconnu comme la cause première de la sainteté, et ça a été confirmé par le Concile Vatican II. Or, nous tous, qui avons la chance d'être guidés directement par l'Esprit-Saint, est-ce qu'on y pense que nous sommes guidés par l'Esprit-Saint au sein de l'Église catholique? Au moyen de l'un ou l'autre de ces charismes, on a des charismes, on a chacun nos charismes, nos dons, que l'Esprit-Saint nourrit en nous. Hein? Mais nous sommes sur la voie de la sainteté, nous voyons combien cette route qui est largement ouverte par Dieu, finalement, est moderne et adaptée à notre temps. Comme le dit si bien Karaloubic, hein? Tout ça devrait nous donner un élan nouveau pour avancer sur le chemin de la sainteté. Avec une grande espérance puis une immense joie, comme cette mère de famille de 9 enfants dont je vous ai parlé hier, mexicaine, morte en 1937. Faut avancer avec une immense joie. Comment peut-on avancer sur la voie de la sainteté avec joie? Beaucoup de gens s'imaginent que c'est triste. Il faut sacrifier ceci, il faut sacrifier cela, donc c'est triste. Mais non, c'est avec joie. Oui, oui, parce que la sainteté, n'oubliez jamais ça, c'est la seule vraie joie, c'est la seule vraie totale et entière joie profonde. Les autres joies n'en sont que des reflets. Il n'y a pas de doute qu'en aimant, nous allons parvenir à la sainteté. C'est clair comme de l'eau de roche quand on voit les vrais vies de saints. Regardez Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Mais en sommes-nous vraiment convaincus? Puis comment faire, hein? Il faut alors que nous nous perfectionnions dans l'amour. C'est difficile. Oh. L'amour envers Dieu, puis l'amour envers le prochain. Il faut que nous nous efforcions tous ensemble de nous donner encore plus parfaitement à Dieu, à sa volonté, et particulièrement à celle que représente l'amour du prochain. Oui, l'amour du prochain est tout près, là. C'est clair, il me semble. Et alors, on doit bien laisser pénétrer au fond de son cœur la charité que l'Esprit Saint a répandue en nous au moment du baptême, puis dans la confirmation, puis dans les sacrements, dans toutes les fibres de notre être, hein. Il faut que cette charité qui vient de l'Esprit Saint s'incarne dans nos cœurs, dans nos sentiments, qu'elle envahisse tout notre être, tout notre cœur, notre esprit, notre mémoire, notre volonté, nos forces. C'est l'Esprit Saint qui va nous changer. Et pour avoir la garantie d'une vraie sainteté, il faut sanctifier pour les autres. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sanctifier pour les autres. Pour bien paraître devant les autres, pour que les autres nous acclament. Pas du tout, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que l'amour pour Dieu est renforcé lorsque nous nous efforçons de nous perfectionner dans la charité envers le prochain, envers les autres. La charité elle-même augmente en fécondité, puis elle gagne les personnes à Dieu. Hein? Il s'agit de les aider à se perfectionner aussi. C'est que nous grandissons dans l'amour pour Dieu. Ça aide les autres à faire de même, à ouvrir leur cœur. Regardez Jean Vanier, dont le cœur est immense. Il a ouvert combien de cœurs? Combien de milliers de cœurs? D'abord les cœurs des gens dont il s'occupe, ces pauvres gens. Si simple que j'ai connu en faisant un film sur Jean Vanier en 67-68, ça a changé ma vie. Ça m'a fait adopter un enfant comme les ceux dont il s'occupe. Il faut toujours garder à l'esprit cette distance infinie qui existe entre Dieu et l'homme, entre le tout et le néant que nous sommes. Les géants de la religion que sont les saints en ont toujours eu conscience, et souvent, leur prière à Dieu a jailli de leur cœur, de la façon suivante, et vous connaissez cette petite phrase, « Tu es tout, je ne suis rien. » Cette façon de penser, cette prise de conscience, leur a permis de constater un jour, bien clairement, que leur néant était tout rempli par le tout, que Dieu était pleinement entré dans leur cœur. Et comme ils s'étaient anéantis, Dieu a voulu qu'ils aient part à sa splendeur. Faut pas se gêner, hein? Il faut que nous nous comportions comme ces chrétiens-là qui ont osé et qui se sont réalisés. Voilà le premier pas. Hein? C'est fondamental. Il faut plonger. Au début, on veut évidemment imiter les saints. Alors, on répète souvent Jésus devant le tabernacle qu'il est tout. Et que nous ne sommes rien, mais au fond, on ne le croit pas. Nous agissons ainsi surtout, et il faut le faire avant de parler en public, de façon à ne pas donner aux autres des paroles creuses, mais pour que ce soit lui en nous qui parle, et qui parle à notre cœur. C'est important, parce qu'il me semble que ça aide au point de pouvoir dire que si Rencontre spirituelle a connu une assez grande expansion de ses débuts, c'est à cela que je le dois, c'est l'exemple des saints que j'ai laissé sortir de ma bouche, que j'ai trouvé dans des tas de livres et d'études, de choses. Tout ça ne vient pas de mes connaissances à moi, c'est le trésor de l'Église que je vous livre. Et c'est l'exemple des saints, des bienheureux, qui a bouleversé bien des gens. C'est le but de rencontre spirituelle. Ça me bouleverse moi-même. Lui d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Alors comme les saints, tous ensemble, il faut se mettre dans la même attitude devant Dieu. Il faut lui répéter qu'il est tout et que nous ne sommes rien. Mais il faut surtout vivre ce néant, ce qui n'est pas facile. Pour être ce que réellement nous sommes en nous-mêmes, néant. J'aimais bien quand on nous disait « Rappelle-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Il y aurait tellement de belles homélies à faire à ce sujet, car cette poussière qui s'assemble dans le sein de notre mère et qui devient vie, et qui devient un bébé que nous sommes, puis finalement, cet être que nous sommes, qui n'est que poussière, nous sommes faits de la même matière que le sol, qui nous est venu par les fruits que nous avons mangés et qui viennent de la terre, et la viande, etc. Nous sommes poussière, et cette poussière vit, elle pense, elle voit, elle peut prier cette poussière. Notre âme fait prier cette poussière, et cette poussière retournera donc en poussière. Et c'est Dieu qui, au fond de nous, qui nous a fait, et qui nous peut faire de nous des saints. Au cœur des belles spiritualités qui ont marqué l'Église au cours des siècles, il y a eu beaucoup de moyens inspirés par l'Esprit Saint pour apprendre aux chrétiens à s'anéantir. Il y a les saints, hein? On les a vus qui s'entraînent sans cesse à renoncer à eux-mêmes dans les déserts, à pratiquer des mortifications fantastiques, je vous en ai parlé. D'autres qui recherchent ce qu'on appelle le nada, le rien, l'absence complète de tous les appétits, c'est-à-dire les désirs. Hein? Il y a des beaux passages en Saint Jean de la Croix comme ça. Mais pour nous, du moins pour moi qui suis un Québécois bien ordinaire, pour nous presque tous, sans pour autant oublier le renoncement, là, nous devons, pour la plupart, emprunter un chemin caractéristique, c'est-à-dire parvenir au néant nous-mêmes, en pensant à Dieu, à sa volonté, puis au prochain, puis en vivant nos espoirs, en vivant nos peines, en vivant nos problèmes, nos joies, en un mot, en vivant vraiment, c'est-à-dire en aimant, tout simplement. C'est ça, vivre, aimer, tout simplement. Kara Lubick le dit très bien à un moment donné, elle dit « Si dans l'instant présent nous sommes toujours amour, » j'ai beaucoup parlé de l'instant présent l'autre jour, « Si dans l'instant présent nous sommes toujours amour, alors, sans même nous en apercevoir, nous ne sommes rien pour nous-mêmes. Vivant notre néant, nous affirmons que notre vie, par notre vie, la supériorité de Dieu, et nous affirmons par le fait même qu'il est tout. » Et comme, en étant amour avec lui, nous ne sommes rien dans le présent, Dieu nous fait tout de suite participants de lui. Nous ne sommes rien par nous-mêmes et tout grâce à lui. Oui, grâce à lui, nous sommes tout. Si nous agissons ainsi, ce ne sera pas seulement notre prière qui dira à Dieu « C'est toi qui es tout et moi je ne suis rien », c'est notre vie qui le criera, ajoute Kara Lubick, qui est un des plus grands auteurs spirituels de ce siècle. N'oublions jamais qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de saints, de vrais saints. Qui sait combien de saints sont en formation dans la grande fabrique, dans la grande manufacture divine sur cette terre, la grande fabrique divine du corps mystique? Combien de saints l'Esprit Saint est en train de modeler sur la terre entière? Nous les verrons un jour, quelques-uns d'entre eux. Quand Dieu l'aura décidé, on en voit déjà. J'en connais, moi, des saints qui m'émerveillent et me réjouissent. Et en même temps, quand je me compare, je vois que je n'y parviendrai jamais. Oh! Esprit Saint, comme nous devrions être reconnaissants. Et combien peu nous le sommes. Ce qui nous console, c'est que tu es un avec Jésus et avec le Père. à qui nous nous adressons plus souvent. Pourtant, cela ne nous justifie pas. Nous voulons nous tenir avec toi, au Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Cet extrait d'une hymne à l'Esprit Saint, c'est si beau cet hymne. Ô Esprit Saint, tu es la lumière, la joie, la beauté. Tu entraînes les âmes, tu enflammes les cœurs, tu suscites le désir de la sainteté et tu fais prendre des résolutions et des engagements inattendus. Tu opères en nous ce que bien des sermons n'avaient pu enseigner. Tu sanctifies, oui, tu sanctifies. Toi qui es si discret dans ton enthousiasme, ton impétuosité bouleversante. Toi qui souffles comme un zéphyr, un petit vent doux, que bien peu savent entendre, ne nous tiens pas rigueur de notre lâcheté, de notre grossièreté. Fais de nous tes fidèles. Que pas un jour ne s'écoule sans que nous ne t'invoquions, te remercions, t'adorions, t'aimions. Oui, nous voulons t'aimer. Que pas un jour ne s'écoule sans que nous soyons tes disciples assidus et convaincus. Voilà ce que nous te demandons. Enveloppe-nous dans ta lumière d'amour. Surtout à l'heure des ténèbres les plus épaisses. Quand va s'estomper cette vision de la vie pour se fondre dans la vision éternelle au moment de notre sœur la mort. Amen. Dit le curé d'Ars, qui disait « Souffrir en aimant, ce n'est plus souffrir. Au contraire, fuir la croix, au contraire, c'est vouloir en être accablé. Il faut se demander l'amour des croix, alors elles deviennent douces. J'en ai fait l'expérience, ajoute le curé d'Ars, pendant 4 ou 5 ans. J'ai été calomnié, bien contredit. Oh, j'avais des croix. J'en avais presque plus que je n'en pouvais porter. Je me mis à demander l'amour des croix. Et je me dis vraiment, il n'y a de bonheur que là. Pourquoi? Parce que je vous essayais de vous le faire comprendre rapidement hier. La croix, regardez bien votre crucifix. Il ne s'agit pas d'abord de souffrance, si vous regardez la sainte face du linceul de Turin, il ne s'agit pas d'abord de souffrance, il s'agit d'abord d'amour. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime au creux de la croix, comme au creux du linceul de Turin, dont je vous parlerai bientôt. C'est l'amour. Il n'y a que l'amour vraiment qui sanctifie.